over. The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. You've just seen history.
Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important. D'habitude, je le fais beaucoup plus tôt, ou en tout cas, je m'attarde sur ce sujet beaucoup plus tôt. Mais voilà, au plus d'un tiers de la saison, 35 matchs joués, on va aborder le sujet, dans un premier temps, du rookie de l'année. Évidemment, il y aura d'autres podcasts pour les autres top 3 que je vais faire, que ce soit pour le sixième homme, pour le MVP et tout ce genre de choses. Bien sûr, on va parler de wildcard, de mecs qui peuvent monter. On va pas uniquement parler du top 3. Pour le rookie de l'année, ça serait peu intéressant. Parce que pour moi, bah, y a une course à deux. Ce n'est même pas un spoil de dire ça, je pense à mon sens. Mais voilà, il y a deux joueurs qui se dégagent sur cette draft, mais c'est quand même intéressant d'aborder tous les autres noms, et on fera ça évidemment pour le MVP, pour énormément d'autres choses. Dites-moi ce qui pourrait vous intéresser pour la prochaine fois, mais en tout cas, je pense qu'on peut commencer en abordant déjà les wildcards. Allons-y. Unicorn, look at the block shot. Victor's fifth of the evening. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la troisième place, j'ai décidé dans ce cas-ci de placer quelques wildcards, parce que je trouvais toujours intéressant de parler de plus de rookies. Il y a des joueurs qui se tiennent à des rangs, notamment la troisième place, qui est à mon sens assez serrée. Tout d'abord, en tant que wildcard, on va pas en parler longtemps, j'ai décidé de parler de Derek Lively, qui est le joueur, du coup, le poste 5 de Dallas. Alors, Lively, c'est un joueur que je ne pensais pas ce niveau en saison 1. De toute façon, les intérieurs et notamment les postes 5 mettent un certain temps à arriver à maturité. Lively, notamment, quand il était encore en NCAA, il provoquait énormément de fautes, il avait un taux de déchets assez important. Même si c'était un profil intéressant, je pensais qu'on allait le voir à une maturité autour de l'âge de 23 ans, on va dire. Pas en saison 1. Donc j'ai été très impressionné par le rôle, qui est encore un rôle minime, mais un rôle indispensable à Dallas, c'est-à-dire un protecteur de cercle qui est capable de faire du coast-to-coast ou de défendre la raquette et d'attraper tout simplement des lobes que peuvent lui donner Kyrie Irving ou Luka Doncic, qui a un rôle déboueur finalement, mais un rôle qu'il est assez compliqué pour une équipe qui est compétitive comme Dallas de commencer en année 1. Donc oui, je trouve que malgré sa discrétion sur certains matchs, il est tout à fait fondamental dans la bonne saison actuelle, en tout cas la correcte saison collective de Dallas. Donc un petit shout-out à lui. Et pour la deuxième wildcard, parce que comme je vous l'ai dit, on va en parler assez vite, je voulais parler évidemment de Podziemski. Podziemski, qui lui aussi, quand on parlait de montée en gamme en termes de minutes, c'est exactement ce qui s'est passé. Et depuis qu'on lui a donné des responsabilités, on voit que c'est un putain de bosseur. Excusez-moi pour le mot, j'espère que ça posera pas de problème à quelqu'un. Mais on va dire qu'il n'est pas encore réellement dans une course au top 3, ça va être compliqué pour lui avec le retard qu'il a pris en début de saison. Mais en tout cas, ce n'est pas le style des boueurs, mais c'est vraiment le 3&D, le joueur intelligent et bosseur par excellence, qui fait plaisir au collectif. Plus il joue, des fois il est même titulaire aux Warriors, plus il joue, plus cette équipe remonte, on va dire, dans les classements. Même à part ça, on voit qu'il y a quand même une progression après cette petite étape noire qu'ont eu les Warriors, quand ils ont commencé à... Voilà, il y a des joueurs dans ce collectif des Warriors qui sont indéboulonnables. Malgré le fait que leur style de jeu et leur jeu en général vieillit, malgré le fait que les cadres de cet effectif ont du mal à s'adapter, ont du mal à se renouveler, eh bien, ils sont indéboulonnables. Mais Podziemski a bousculé ses schémas, a bousculé un petit peu ce que Steve Kerr voulait pour ce collectif, et on le voit, quand il prend des minutes, cet effectif marche beaucoup mieux. En plus de ça, d'après les dires des cadres de cet effectif, c'est toujours celui qui parle le plus, qui pose le plus de questions, il a vraiment la maturité de vouloir progresser, et je pense que Steph Curry kiffe ce genre de profil, surtout avec les récentes histoire, on va dire, avec Draymond Green, avec Klay Thompson. Je pense que Curry aime être aux côtés de Podziemski. Et s'il continue comme ça, en plus d'être un excellent shooter, hein, 47% au tir et 44% à 3 points, c'est vraiment excellent. On peut considérer qu'il a un bel avenir devant lui à Golden State. Il serait aussi une asset énormément importante dans le cas d'un transfert, mais potentiellement, et c'est pour vous dire à quel point il devient important dans ce collectif, est-ce qu'il ne serait pas indéboulonnable dès aujourd'hui ? Même dans le cas d'un un transfert pour Randle, ça me paraît compliqué de le voir partir. Quel autre joueur on peut aborder aussi ? Je pense qu'on pourrait aborder aussi un de mes chouchous, hein, Scoot Henderson. Vous savez, je suis un fan de Portland et actuellement, il est rentré dans le top 10 depuis une à deux semaines. Il est actuellement 8e, je crois, donc encore un peu en dessous. Mais si on regarde que les derniers matchs auxquels il a participé, il a eu des perfs. Notamment, c'est le seul joueur à avoir fait des doubles-doubles à la passe cette saison. Au scoring, il y a une nette progression. Au scoring en général, je pense qu'il est top 5 maintenant, avec plus de 12 points par match. Il a une montée à 19 points sur les derniers matchs. Il perd moins de ballons. Ça se remarque sur le terrain, il a confiance en son dribble, alors qu'au début, bah, il perdait voilà, 4 ballons par match. On avait l'impression que dès qu'il faisait rebondir la balle, il était à deux doigts de la perdre. Là, il se sert beaucoup mieux de son physique, hein. C'est quand même un physique de buffle, on dirait un gorille sur le terrain. Je pense vraiment qu'on va voir que monter Scoot Henderson, surtout si à la trade deadline, Malcolm Brogdon est transféré potentiellement. Ouais, ça peut être très intéressant pour lui. Et je pense que je vais pas dire d'autres noms, parce que tout simplement, ça pourrait spoil mon top 3. Donc on va directement passer sur la troisième place de cette course au rookie de l'année. Et tout simplement, pour cette troisième place, j'ai décidé de placer Jacques Junior, donc le rookie de Miami. Pour recontextualiser un petit peu, hein, c'est un rookie qui a fait débat lors de sa draft, parce qu'on l'attendait vraiment à la fin du premier tour, début de second tour. Il a été quand même drafté avant un certain Cam Whitmore. On verra dans les prochaines années si ce fut une erreur pour Miami. Mais en tout cas, il s'inscrit tellement bien dans cet ADN. C'est-à-dire que vraiment, lui aussi, en parlant de bosseur, c'est le cas. C'est un joueur d'impact directement. Je pense qu'il ne sera pas rookie de l'année cette année. On le verra pourquoi au-dessus. Mais à côté de ça, il pourrait totalement être, s'il continue à sortir du banc, sixième homme de l'année. Il est aujourd'hui en 13,7 points, 3,7 rebonds et 2,7 passes, avec des pourcentages totalement honnêtes. On se rappelle que le 25 décembre, donc le jour de Noël, il a sorti une perf à 31 points dans une victoire qui était quand même assez impressionnante, surtout avec le taux de pression et la journée qui est quand même un symbole en NBA, hein, c'est une journée importante. Donc oui, c'est un joueur qui mérite totalement cette troisième place. Ce n'est pas juste un joueur de système comme on en a l'habitude avec le Heat, c'est un joueur qui dépasse son rôle, qui arrive à prendre les shoots importants, qui arrive à avoir des plays assez intelligentes. On le verra, c'est vraiment une draft cette année, et on l'a vu déjà avec les Podziemski, Lively et même Scoot qui progressent dans la matière. C'est des joueurs qui arrivent à dépasser leur capacité de rookie. On sait que souvent, même s'ils font des stats, même s'ils ont des perfs par moment, c'est difficile sur la longueur. C'est exactement le contraire avec Jacques Junior. C'est-à-dire que lui, on est sûr de ce qu'il va produire chaque match. En tout cas, depuis le début de la saison, c'est le cas. On sait qu'il va progresser. Il a malheureusement déjà 22 ans, c'est-à-dire que son taux de progression, entre énormes guillemets, est plus bas que les autres. Mais on sait déjà que c'est un vétéran dans l'âme. Il est totalement intégré dans ce collectif. Ça peut être déjà un quatrième joueur d'une équipe playoffable. C'est le cas pour Miami, mais peut-être qu'il dépassera encore ce rôle-là quand ils arriveront en playoff. Mais non, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais en fait à une progression lente, à des minutes déjà beaucoup plus courtes. On l'a vu avec Jovic, le rookie de l'année dernière, qui a été pris un petit peu aux mêmes places côté Miami. Mais là, ça va être compliqué pour Jovic, sur ses postes, 3 ou 4, on a un Jacques, qui est plutôt un poste 3, hein, excusez-moi, qui prend cette place-là, vraiment. Pourquoi aller chercher Damian Lillard quand on a un scoreur déjà à 14 points en étant rookie et qui ne fait que progresser, hein. Vraiment, 14 points, c'est parce qu'au début de la saison, c'était assez compliqué au scoring pour lui, les premières semaines, mais là, ça fait que progresser, et je pense vraiment qu'on a une sorte de métronome qui se découvre encore et qui n'a même pas encore conscience de ses capacités. Ce n'est pas du tout le même style de joueur, mais moi, il me fait penser vraiment à Jay Will d'OKC l'année dernière. C'est vraiment le joueur un peu plus ancien qui a besoin de maturité, qui avait besoin de maturité en NCAA, mais qui, en arrivant à NBA, en fait, est déjà un profil qui sait ce qu'il doit faire, qui sait comment progresser, et en arrivant à Miami, comme à OKC, hein, qui sont vraiment des accélérateurs de talent, qui sont des découvreurs de talent et des formateurs excellents, bah évidemment, il a trouvé sa place et il est dans le bon moule pour devenir un joueur important de ce collectif qui ira sûrement en playoff, et on verra de toute façon, parce que évidemment on s'avance un peu trop pour son cas, mais je pense vraiment qu'il peut performer en playoff et encore redécouvrir un autre niveau. Et en plus, dans le style, c'est-à-dire que là je le glorifie un petit peu, c'est que il a cet ADN parfaitement Miami, en fait. Il est discret dans sa manière de jouer, et on verra pas des highlights énormes de lui, hein. Je pense qu'il a aussi une certaine hype parce qu'il est rookie et qu'en fait, derrière le duo de tête, bah, c'est lui qui ressort pour l'instant. Peut-être que ça changera, mais il s'inscrit vraiment dans un collectif parfaitement, ce qui est rare pour des rookies, comme je l'ai dit précédemment, qui peuvent être inconstants, etc. Donc, pour moi, ce qui pourrait le faire baisser, c'est potentiellement le retour de certains joueurs, entre guillemets. C'est-à-dire que potentiellement le retour de LaMelo pourrait aider énormément un joueur comme Brandon Miller, que j'ai pas cité dans les wildcards parce que tout simplement il est à la course à la troisième place avec Jackass Jr. Brandon Miller qui est déjà un joueur éminemment bien plus en tout cas athlétique, qui est aussi bien plus scoreur en soi, qui a des capacités défensives qui pourraient être plus importantes à terme et qui en fait est dans un mouchoir de poche à mon avis, mais depuis le départ d'un vrai meneur comme LaMelo depuis quelques temps déjà, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de difficultés, mais effectivement il est un tout petit peu derrière, raison pour laquelle j'ai mis Jackass Jr. en premier, et puis parce qu'il fait gagner Miami et Miami performe aussi par sa présence, ce qui n'est pas le cas de Brandon Miller. Évidemment, on ne compte pas forcément les victoires dans ce genre de classement, mais pour un truc aussi resserré, je trouve que c'est important de le citer. Brandon Miller se trouve pour moi quatrième, même si c'est un top 3, et on verra, parce que je pense que entre Scoot Henderson, s'il continue à sortir des perfs à 22 points, 11 passes, ou 17 points, 11 passes, bah, évidemment, il va remonter, parce que même si j'ai confiance en les capacités de Jackass Jr., je pense pas qu'il tourne à 20 points de moyenne sur un mois. Il y a quand même Tyler Hero, Bam Adebayo autour de lui, Butler s'il se décide à jouer un jour. Ça s'annonce compliqué, surtout si Miami, même si c'est pas le style d'équipe à faire ça, commence à prendre un joueur à la deadline, ça pourrait être compliqué pour lui, mais même en tant que sixième homme, s'il reste à 14 points de moyenne, ça peut être très intéressant pour Miami, mais que ce soit Scoot, on parle aussi de Keyonte George, qui pourrait reprendre sa place de titulaire, hein, même si c'est dur au pourcentage au tir pour lui, c'est un bon meneur, il montre de très belles choses, ou encore de voilà Brandon Miller, Scoot Henderson, Podziemski, je ne sais pas, mais bon, voilà, cette troisième place, on va dire, est assez interchangeable. Donc on va passer quand même à la deuxième, parce que j'ai l'impression d'avoir fait 2 heures sur ce joueur-là, je me suis beaucoup perdu. Pour cette deuxième place, et c'est là qu'on rentre dans le débat depuis le début de l'année finalement, hein, on va pas se mentir, on sait qu'ils sont aux deux premières places, mais dans quel ordre? Bah pour moi, en deuxième place, on a Chet Holmgren. Voilà, je pense qu'on peut limite parler des deux en même temps, parce qu'en fait c'est une histoire de comparaison, hein. Les deux sont à un monde de différence par rapport au troisième ou au quatrième, donc je pense qu'on peut mélanger et dire que Wemby est top 1 maintenant, mais pourquoi je mets Chet deuxième? J'ai pas envie de le critiquer outre mesure par rapport à Wemby, hein. J'aimerais juste m'avancer en disant que ce n'est pas du chauvinisme, c'est vraiment quelque chose qui ne m'atteint que très peu. Je suis très chauvin lorsqu'il s'agit des compétitions FIBA, quand c'est pour la France, mais en NBA, j'ai conscience et j'essaye d'être un petit peu objectif par rapport au réel niveau de joueurs français. Mais pour le coup, Chet est pour moi le clair deuxième, et potentiellement, il y a un monde entre le premier et le deuxième. Mais bref, attardons-nous sur Chet. Chet est peut-être le deuxième ou troisième meilleur joueur d'une équipe qui commence à vraiment se définir comme un contender. C'est-à-dire que c'est vraiment l'intérieur qui manquait sur un poste où il n'y avait totalement personne, hein, à part Williams, je sais plus exactement son nom, là, l'intérieur un peu sous-dimensionné, qui est un bon poseur d'écran. Bref, en tout cas, Chet a pris ce rôle à cœur et est rentré dans un collectif d'une manière assez impressionnante. C'est-à-dire que pour un rookie, même s'il est assez âgé et qu'il a été blessé toute sa première saison, il faut pas retirer le fait que ce soit un rookie. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent « Oui, mais il est déjà plus vieux que Banchero. » C'est pas la question ici. En termes de pourcentage au tir, je pense qu'on n'a jamais vu ça, peut-être sur les 20 dernières années. C'est un joueur qui vise déjà les 50-40-90. C'est un intérieur poste 5 qui est capable de s'écarter. Il a des flashs, lui, à la KD, qui sont même pas, c'est même pas une honte pour KD de le comparer à lui, enfin, ou plutôt le contraire. Mais en tout cas, je trouve que pour un rookie, il est peut-être déjà quasi all-time dans son profil. C'est-à-dire que n'importe quelle autre année potentielle, en tout cas beaucoup d'années, il serait un top 1 indiscutable. C'est, comme je l'ai dit, le deuxième ou troisième, mais pour moi c'est le deuxième en termes d'impact et de son importance dans le collectif, du fait que ça soit le seul intérieur dominant et peut-être le seul vrai intérieur de ce collectif. C'est un défenseur qui pourrait déjà être dans la conversation au deep boy. C'est un joueur capable de s'écarter, très intelligent, qui est rentré dans un système en l'espace déjà de un match. C'est un bon rebondeur, excellent contreur. Encore une fois, il serait peut-être all time en train que rookie au contre, enfin je sais pas exactement à quoi il est maintenant, mais c'est un excellent contreur. Pour moi, il ne peut tout simplement pas descendre, c'est-à-dire qu'il est top 2 minimum, à part si vraiment, je sais pas, Scoot commence à nous sortir des 26-11 sur les 30 prochains matchs, mais je n'y crois pas, désolé pour lui. Non, Chet est le deuxième joueur d'une équipe qui, pour moi, déjà vise les finales de conf potentiellement. Évidemment, quand on va rentrer un peu dans la critique, quand on a un joueur à côté de lui, déjà comme Shai Gilgeous-Alexander, qui est dans la conversation au MVP, qui est une superstar de cette ligue et qui mène en tant que métronome cette franchise, ça ouvre des espaces. Ça, forcément, évidemment, ça aide un rookie, surtout que les rookies placés si haut à la draft, je me rappelle qu'il a été pick en 2 hein, il y a 2 ans, eh bien, normalement, tu atterris dans un collectif qui n'est pas huilé comme ça, un collectif qui doit progresser. En fait, tu atterris dans des équipes comme Détroit ou Washington, normalement, en tout cas. Là, on avait déjà un collectif qui progressait, un collectif qui a fait le play-in l'année dernière. Et je ne veux rien retirer à Chet pour ça, mais il faut le dire quand même. Et pour moi, je ne retire rien à Chet aussi parce qu'il est la raison, une des raisons principales de cette montée en puissance. Il manquait un intérieur, mais il n'est pas devenu l'intérieur par défaut. Il est vraiment devenu un rouage, l'un des principaux rouages de cette excellente saison et de cette surprise qu'est OKC, dans un rôle qui n'est pas, comme je l'ai dit à l'instant, pas un éboueur, mais vraiment, il prend la balle, il est capable de poser un pic, il est capable de shooter en spot-up à mi-distance, de dribbler un petit peu, il peut partager le ballon, il n'y a aucun problème avec ça. Chet est vraiment déjà un joueur complet, et il a 21 ans aujourd'hui, je pense que sa marge de progression est incroyable. Mais dans n'importe quel autre, sur les 5 dernières années, il serait premier dans n'importe quel autre draft, pardon, même peut-être devant Paolo Banchero, parce que en fait, ses pourcentages sont les plus élevés en termes de volume et de pourcentage, hein, le mélange des deux, de toute cette draft. Mais il y a un joueur au-dessus, et je suis désolé de le dire, il a un rôle sublime, il est très impressionnant à voir jouer. Mais pour moi, la grosse différence avec le numéro 1 donc, que j'ai cité, qui est Victor Wembanyama, c'est que Chet est un profil, vas-y, de licorne, je déteste ce terme, mais un profil qui est très rare, qui surprend une fois qu'on le voit jouer, mais je n'ai pas l'impression que ce soit du all-time ou quelque chose que je n'ai jamais vu. Maintenant, quand j'aborde Wembanyama, qui est dans un cadre totalement différent, je n'ai jamais vu ce qu'est en train d'accomplir Wembanyama en saison 1 de l'histoire de la NBA, en tout cas à cet âge, en étant rookie à cet âge. Évidemment, il y a eu des rookies il y a 30 ans ou il y a 50 ans même qui avaient un niveau intrinsèque bien plus haut que Wemby. Mais depuis que la NBA fait du one and done, c'est-à-dire une année à la fac et venait directement à NBA, depuis que la NCAA n'est plus un point de passage obligatoire sur 2, 3, 4 ans, eh bien Wemby est peut-être avec LeBron, avec Carmelo, avec Doncic, l'un des joueurs les plus importants que j'ai vu. C'est juste un ovni, encore une fois, les termes ovni, licorne, bon voilà, on en fait ce qu'on en veut, mais Wemby est quand même un style de joueur qu'on ne voit jamais. sur les récents matchs, on peut en parler, il tient tête à Giannis dans un match qui est incroyable, tout ça en moins de 30 minutes de jeu par match, ou en 30 minutes, juste 30 minutes, genre pas plus, de jeu par match cette saison. En ce moment, il joue même moins que 30 minutes, il fait des perfs au scoring à plus de 24 points sur les derniers matchs, je crois, il est en double-double, il est le meilleur contreur de la NBA à plus de 3,3 contre. Si les Spurs gagnaient, si Popovich voulait que les Spurs gagnent, parce que moi je pense pas que Popovich est complètement fou allié ou qu'il est trop vieux pour... voilà, je pense qu'il vise un haut pic. Je pense que s'il commençait à gagner des matchs maintenant, il n'y aurait pas assez de talent sur le long terme à côté de Wemby, et que c'est logique de vouloir faire progresser des joueurs comme Devin Vassell, Keldon Johnson en le faisant sortir du banc par moment, ou même si ça me saoule de le dire, Swan en poste 1, si tu veux qu'il s'améliore au playmaking. C'est logique de le faire jouer à ce rôle. Mais en attendant, parce qu'on sort un petit peu du sujet, Wemby qui affronte Giannis et qui bat deux fois KD sans trembler, en faisant des perfs à plus de 38 points, je crois, contre KD, en étant clutch, en lâchant des contres sur contres, et sans oublier que ça se remarque moins dans les stats, même si on a les contres, comme on vient de dire, qu'il a un impact défensif et... les joueurs ont tout simplement peur de prendre un tir quand il est à 2m2, quand il est dans la raquette, ou même quand il s'éloigne de la raquette. On ne voit jamais ça, à part avec des joueurs peut-être comme Giannis. Et encore, je trouve que Wemby a plus cet impact sur la peur de l'adversaire, je ne sais pas comment la décrire, que Giannis actuellement. Surtout que voilà, la saison défensive des Bucks, c'est pas ouf, mais on peut le comparer directement à Gobert. C'est-à-dire que ses bras tentaculaires, sa vision défensive, sa manière de défendre, tout simplement, lui permet d'avoir cette peur en face de lui des adversaires qui est digne d'un triple deep boy comme Rudy Gobert. Donc oui, ils ont gagné 5 matchs cette saison sur 35. Donc oui, il ne sera ni dans la conversation du deep boy, et pourtant il est déjà dans la conversation du All-Star. D'ailleurs, j'en ai pas parlé pour Chet pour essayer de me racheter un petit peu parce que j'ai été dur avec lui. Je pense que Chet pourrait légitimement être All-Star cette année. Voilà. Bizarrement, je le mets en deux parce que Wemby ne le sera sûrement pas All-Star. Il est malgré tout en avance, mais c'est du fait de sa hype et de son niveau intrinsèque. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Mais du coup, non, je pense que Chet mériterait peut-être un poste de All-Star. En tout cas, ça ne me choquerait pas, ça ne me choquerait beaucoup moins que d'autres noms qui ont été cités les dernières années, comme Mike Conley il y a 2 ans, ou bref, on va pas s'attarder sur ces sujets-là. Mais Wemby, non, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de rebonds, avoir un tel impact défensif, avoir une telle intelligence offensive. On ne parle même pas de son jeu de passe, mais là, ils ont perdu récemment contre les Cavs. Pour moi, c'était hier, pour vous, ça sera c'était il y a 2-3 jours. Mais... la pocket pass qu'il a fait à Sohan, qui aurait dû dunker ou en tout cas faire un layup, c'est du grand art. C'est du grand art. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il pourra finir un peu comme les Sengun, Jokic ou Sabonis, à être un vrai passeur avec qui pèse en tant que meneur de jeu. Mais Wemby, dans le rôle, s'il ne faisait pas 2m24, je le vois quand même comme un ailier ou en tout cas un arrière pur. Et son jeu de passe est déjà très impressionnant. Pour moi, il n'y a pas de point faible dans son profil pour le mettre au rookie de l'année. On s'en fiche qu'il ait perdu autant de matchs. Et je sais que j'ai dit que ça comptait les matchs gagnés en dessous pour Jacquez et Brandon Miller. Mais là, on parle d'un tout autre prototype de joueur. C'est-à-dire que dans 2 ans, Wemby, si tu ne l'as pas bien entouré, c'est déjà une faute professionnelle à mon sens. Mais c'est surtout que dans 2 ans, il peut jouer les finales de conférence. Chet, je ne sais pas si dans 2 ans, en tant que leader d'une franchise, il serait capable de jouer des finales de conférence. C'est particulier comme avis, je le sais, et je sais que beaucoup, et je le respecte, mettent Chet en premier. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est légitimement pas mon cas. Et pour moi, il n'y a pas de point faible. Ses pourcentages au shoot à 3 points sont effectivement faibles, mais c'est peut-être la seule menace réelle avec Devin Vassell de son équipe. Et puis, l'impact qu'il arrive à avoir de l'autre côté du terrain, je n'ai même pas les stats de quand il est ou il est hors du terrain défensivement, mais je sais que on tombe sur du plus 10 pour l'adversaire de points marqués, c'est une évidence. Il est à 70% de ses capacités. En plus, comme je l'ai dit, on s'est pas attardé sur les 30 minutes de jeu. Il pourrait jouer bien plus. Il pourrait déjà être à 25 points par match sur les 15 derniers matchs. Si, et peut-être qu'il l'est déjà en 30 minutes de jeu, si Pop le laissait jouer comme il le sentait, tu vois. Il joue par séquence des fois de 3 minutes. C'est assez honteux. Mais voilà. Chet est dans un collectif huilé, lui ne l'est pas, et je pense que c'est vraiment la principale différence qui fait que ce profil ressort par rapport à l'autre. Vraiment, c'est impressionnant. C'est pourquoi je mets Wemby en première position de mon classement au rookie de l'année.
He plays inside of his game. He's big for his position. And he's got tools. He's a good player. And as long as he works out, he'll be pretty good for a long time. And Chet Holmgren's the number one pick, by the way. Yeah.
Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Donc déjà, je voulais dire, hein, évidemment, je mets Wemby en 1. Je ne trouve aucune contestation à redire que Chet, pour certains d'entre vous, serait le numéro 1 aujourd'hui. Mais pour moi, mes critères font, et peut-être qu'ils sont particuliers, font en sorte que Wemby se trouve comme clair numéro 1. Beaucoup ont des critères du Rookie of the Year qui ressemblent un petit peu trop au MVP. Ce n'est pas le cas, il faut quand même y penser. Ça c'est assez objectif comme avis je pense, mais aucune haine ou aucun acharnement à ceux qui mettent Chet en 1, et j'espère que vous êtes assez d'accord avec moi quand même sur ce top 3. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu quand même. On verra sur les autres épisodes ce qu'on fait en termes de top 3, peut-être de top 5 pour les autres trophées à cette mi-saison. Et puis bien sûr, si ça vous a plu, abonnez-vous. Allez sur Spotify si vous êtes sur YouTube, et à contrario sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, il y a Deezer aussi pour vous, Apple Podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à ceux qui m'écoutent. Au revoir.